radio du Chemin Rouge.
Bonjour auditeurs et auditrices, bienvenue pour un nouveau podcast où aujourd'hui nous allons échanger autour de l'insertion professionnelle. À la suite des dernières réformes, il est nécessaire de mettre en place différentes méthodes d'accompagnement afin de s'adapter aux usagers pour leur assurer une transition vers le monde professionnel. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui avec une invitée travaillant en tant que CIP, conseillère insertion professionnelle. Je te laisse te présenter.
Alors bonjour, moi c'est Natacha. Je travaille à la Chambre de métiers et de l'artisanat en tant que conseillère en insertion professionnelle, mais dans un accompagnement spécifique car j'accompagne les personnes bénéficiaires du RSA. Donc dans la découverte des métiers de l'artisanat.
Bon ben moi c'est Jonathan, j'ai 39 ans et je suis jeune papa d'un petit garçon qui s'appelle Lucien qui a 5 ans et demi.
Et nous avons également avec nous, pour animer également...
Jordan, donc moi en fait je suis stagiaire pour devenir donc comme Natacha, conseiller en insertion professionnelle. Et donc là je suis en stage avec Alexandra qui travaille ici donc au Chemin Rouge.
Jonathan, Jordan, je vous laisse poser les questions à notre jeune invité.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et auditrices en fait qu'est-ce que le métier de CIP en fait ?
Oui. Donc le métier de conseillère en insertion professionnelle, c'est vraiment pour des personnes qui soit sont en reconversion professionnelle et cherchent un nouvel objectif professionnel et on va les accompagner dans l'élaboration de leur projet. Mais ça peut être aussi pour des personnes sans emploi depuis assez longtemps et qui sont éloignées complètement du monde professionnel. Et ça peut aussi bien être sur des jeunes qui sont déscolarisés ou même... Qui sont en cours d'études et qui se posent des questions et pareil, qui ont besoin en fait d'être aiguillés sur qu'est-ce qui existe et comment on peut les accompagner au mieux. Et c'est vraiment, dans le monde de l'insertion professionnelle, on appelle ça un maquis parce qu'il y a tellement de structures et de dispositifs que souvent les personnes se perdent. Et c'est là où le conseiller en insertion professionnelle, il peut orienter au mieux par rapport à la problématique rencontrée par la personne. En fait.
D'accord.
Et comment le métier vous est venu ?
Ça, c'est une longue histoire. Mais moi, j'ai commencé dans l'animation pour enfants jusqu'aux personnes âgées. Je me suis spécialisée dans l'handicap et j'aimais bien accompagner vers l'autonomie. En fait, peu importe le public, mais c'est qu'il gagne en autonomie et qu'il soit fier de ce qu'il fait. Et après, ben, ce métier-là de l'animation, ben, je trouvais qu'il était assez précaire. Et donc, je me suis réorientée vers la vente. Et la vente, bon, c'est bien, mais moi, le côté je dois vendre, au bout d'un moment, ça me frustre et j'ai envie plutôt d'aider les gens. Et donc, je suis retournée vers le social un peu. Et d'arriver à un point où les gens se posent des questions et trouver une voie, ben, ça m'a paru une évidence pour moi de leur redonner confiance et de dire que s'ils veulent faire leur projet, ben, ils peuvent y arriver. C'est juste comment on trouve les ressources et comment on va les chercher. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Surtout que plein de gens dans l'insertion ont leur spécialité et on peut trouver une réponse à toutes les problématiques pratiquement.
D'accord. Quelles sont les qualités pour devenir un CIP de qualité en fait ?
Je pense qu'une des premières qualités, c'est l'ouverture d'esprit. Je pense que si on arrive devant une personne et qu'on a des préjugés, on ne va pas l'aider. Si on la regarde déjà en se disant que cette personne, elle ne vaut rien, ben... elle ne va pas arriver quelque part. Donc déjà, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'écoute, savoir écouter les personnes, comprendre leurs problématiques, ce qu'ils vivent en ce moment, et savoir absolument travailler en équipe. C'est-à-dire de ne pas se dire « moi, je vais pouvoir tout faire », c'est non, chacun a sa spécialité et je vais aller chercher la compétence pour aider au mieux la personne qui en demande. Et c'est la polyvalence. Il faut savoir faire plein de choses. Il faut être autant savoir accueillir en individuel et pouvoir mettre la confiance pendant un entretien que animer des ateliers pour, par exemple, la conception d'un CV ou faire des simulations d'entretien d'embauche. C'est aller faire des réunions d'information sur les dispositifs, sur les emplois, faire des forums. Donc, ça demande énormément de polyvalence, je dirais. Et il faut forcément être un peu social.
Merci donc pour cette réponse. Et vous, en tant que CIP, donc, est-ce que vous sentez des changements qui... Enfin, votre métier qui est en train de changer ou des changements en rapport avec le métier ?
Alors moi, je suis passée conseillère en insertion de professionnels depuis longtemps et je suis arrivée déjà pendant le changement, c'est-à-dire il y a un an. Et c'est vrai que là, on est sur une politique qui veut, bah, comme on l'entend dans France Travail, que tout le monde aille au travail. Après, il y a des problématiques chez chaque individu où ils ne sont pas aptes à aller au travail dans les 3 mois, mais il va falloir des parcours un peu plus longs sur du 1 an, 2 ans. Mais on sent que politiquement, voilà, on nous pousse à mettre les gens à l'emploi. Moi, ma philosophie personnelle, c'est que je préfère mettre quelqu'un à l'emploi qui aime le travail qu'il va faire pour qu'il reste dans la durabilité. Ça veut dire qu'il ne va pas abandonner au bout de 2 semaines que plutôt de l'envoyer en restauration et qu'il lâche son poste au bout d'une semaine. Voilà. En tout cas, c'est moi comme ça que je le vois. Donc, j'essaye de trouver un équilibre entre la demande de la politique et le besoin de la personne et son épanouissement. Et je pense que la personne, si elle trouve sa voie, eh ben, elle va se donner dans son travail. Et après, je suis... Enfin, je crois vraiment qu'il n'y a pas de sous-métier et que j'ai déjà rencontré des personnes, par exemple en agent d'entretien, qui adorent leur métier parce qu'ils rendent service. Moi, c'est vraiment la personne, quelles sont ses qualités, quelles sont ses compétences, et on va l'accompagner dans ce projet. Ouais. Donc voilà, c'est tout un jeu d'équilibre, je dirais.
Merci.
Une autre question. Avez-vous déjà travaillé avec le Chemin Rouge ou une autre structure sociale ?
Tout à fait. Avant mon poste à la Chambre des métiers et de l'artisanat, je travaillais dans un centre social à M. Ça s'appelle le centre social des trois villes. Donc, sa particularité, c'est qu'elle touchait trois villes. Souvent, un centre social, ça touche un quartier. Mmh. Nous, on était sur l'Isle-et-Lanois, M et Roubaix. Donc, c'est vraiment trois villes différentes. Mais voilà, j'étais référente RSA. Donc, référente RSA, c'est vraiment pour tous les allocataires du RSA. Aujourd'hui, ils ont l'obligation, s'ils perçoivent le RSA, une obligation d'aller vers l'emploi ou d'aller vers l'insertion. Donc on appelle ça l'insertion socio-professionnelle parce que certaines personnes allocataires du RSA vont être directement, on va dire, employables d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes. Mais d'autres, je vais prendre un exemple, qui ne savent pas encore parler la langue française, eh bien pour aller travailler, passer un entretien d'embauche, c'est tout bête, mais s'il ne comprend pas les questions et qu'il ne peut pas y répondre, il ne va pas être pris. Donc on va passer par des fois des cours de français en amont, ou pour des mamans qui ont des difficultés pour faire garder les enfants, c'est trouver des solutions pour la garde d'enfants pour qu'elles soient disponibles. Et ça, c'est ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi. C'est tout ce qui freine la personne dans sa vie personnelle pour aller à l'emploi. C'est des fois, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que les choses de la vie les empêchent en fait, d'aller à l'emploi. Et nous, c'est de trouver des solutions pour lever ces freins. Et donc voilà. Et quand on travaille dans une structure sociale, on accompagne beaucoup plus des personnes avec énormément de freins. Il faut savoir encore une fois les écouter, les comprendre et qu'ils reprennent confiance en eux parce que souvent on les a marginalisés, on les a laissés sur le côté. Et aujourd'hui, on leur met un coup de bâton en disant allez au travail alors que ça fait 20 ans qu'on les a oubliés. Travailler dans une structure sociale, c'est intéressant parce qu'on peut leur redonner confiance et leur dire, nous, on est une porte ouverte. Peut-être qu'à la CAF, enfin, des fois, c'est bête, hein, mais la CAF Pôle emploi, on vous a mal accueilli, mais ici, on va faire différemment. Mmh. Voilà.
Pour la dernière partie, j'aimerais qu'on voit ensemble de quelle manière vous pourrez accompagner donc, ces personnes. Donc, on va faire un genre d'étude de cas. Imaginons, on a Brian, 16 ans, qui est déscolarisé et qui est en recherche d'une expérience professionnelle. Comment vous pourriez l'accompagner ?
Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un maquis, l'insertion professionnelle. Donc chacun a un petit peu ses publics et ses missions. Et pour un jeune qui est ni scolarisé, ni diplômé, ni à l'emploi, ce qu'on appelle les NEET, il faut qu'ils aillent à une mission locale. Il faut vraiment qu'ils se rapprochent d'une mission locale. Eux, c'est leur public, c'est du 16 ans à 25 ans, voire 29 ans s'il y a RQTH. Donc RQTH, c'est des personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance. Et là, il va avoir vraiment des services dédiés aux jeunes. Et une première expérience professionnelle à partir de 16 ans, ça peut être un service civique. On peut demander des dérogations pour faire un service civique. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a plein de missions. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des stages en immersion, des PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. Et donc là, c'est gratuit pour l'entreprise. Et c'est sur 1 ou 2 semaines. Et on peut du coup, découvrir à partir de ces stages en immersion plein de métiers. Et là, c'est intéressant aussi pour le jeune, parce que souvent, quand on est jeune, on demande à un jeune, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais on se connaît soit ce qu'on a vu comme travail au travers de notre expérience, et elle est souvent l'école, la rue, ou ses parents. Mais il y a plein de métiers qui existent et qu'on ne connaît pas, et c'est au conseiller mission locale de dire, regardez toutes les possibilités qu'il y a, et allez-y, quoi, on veut vous accompagner à faire de la découverte métier.
D'accord. Parlons d'une personne un peu plus âgée, donc par exemple, on va prendre Jacqueline, 50 ans, bénéficiaire du RSA, qui souhaite trouver quelque chose pour arrondir ses fins de mois. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à cette personne ?
Déjà, voilà, les bénéficiaires du RSA, vous avez entendu tout à l'heure que maintenant il y a une obligation d'accompagnement, donc elle aura forcément un référent RSA ou un coach emploi, donc ça c'est le département, ou un conseiller Pôle emploi. Et donc là, on va travailler un petit peu. Madame a 50 ans, elle a forcément eu de l'expérience dans sa vie. Et c'est pas forcément professionnel. C'est-à-dire que c'est une dame qui a élevé 4 enfants. Eh bien, elle a des compétences de mère au foyer, il ne faut pas les sous-estimer. C'est sûrement quelqu'un qui a dû s'organiser, parce que quand on a 4 enfants, c'est de l'organisation. Elle a sûrement une méthodologie pour le niveau du ménage, pour préparer des repas, etc. Donc il y a déjà des métiers qui s'ouvrent. Je pense à assistante de vie, où c'est un peu des compétences qu'il faut pour ce métier. Mais après, on va travailler avec elle pour voir quelles sont ses possibilités, est-ce qu'il faut une formation ou pas. Pareil, la PMSMP, et trouver un emploi, on peut commencer sur un mi-temps, voire, je ne sais pas si vous connaissez les SIAE, donc structure d'insertion par l'activité économique. Et donc ça, c'est pour des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Eh bien, on peut les orienter vers ACI, atelier chantier d'insertion. Et ça, c'est des emplois qui sont souvent sur des 20 heures, 24 heures, avec, on va dire que le travail, il n'est pas dans la rentabilité. Ça veut dire qu'on pratique un métier. Je vais vous donner des exemples pour que ça soit plus parlant. Par exemple, à la gare, il y a un atelier vélo. Eh bien, c'est un ACI. Il répare des vélos, mais c'est tout lent. ce que je veux dire, c'est qu'on y va doucement. On apprend à réparer des vélos. On les vend, on les prête à des centres sociaux, etc. Et ça leur permet de réapprendre à venir à l'heure. Par exemple, s'ils n'ont jamais eu de travail, peut-être qu'ils se disent d'arriver une demi-heure en retard, ce n'est pas très grave. On réapprend à travailler en équipe, etc. Et à l'intérieur de ces dispositifs, ils ont un accompagnement pour aller vers une formation ou vers un emploi. Et ça, les ACI, il y a dans plein de domaines. Ça peut être dans la réparation vélo, dans l'agent d'entretien, dans les espaces verts. Souvent, quand vous voyez les personnes faire les espaces verts, c'est souvent des personnes en réinsertion et qui font partie des ateliers chantiers d'insertion. Ça peut être agent d'entretien, ça peut être tout ce qui est friperie, etc. Il y a vraiment dans tous les domaines. Et sur ça, il faut aller postuler sur Beta Inclusion. c'est les emplois de l'inclusion. Et ça, tout le monde peut se postuler individuellement sans être accompagné. Et souvent, ces emplois-là demandent aucune formation et aucune expérience professionnelle. Donc ça peut être une bonne chose pour commencer et avoir une expérience pro.
D'accord. Par contre, moi, j'ai une autre question.
Oui.
Tout à l'heure, vous parliez de freins qu'on peut voir.
Oui.
Mais il y a des freins qu'on ne voit pas forcément, qui sont peut-être plus psychologiques.
Oui, tout à fait.
Moi, je connais une personne, en fait, qui psychologiquement, ça ne va pas. Mais en fait, il s'est aperçu en fait au fil d'ateliers collectifs et tout, en fait, qu'il s'est appris d'affection en fait à aider les personnes qui sont dans son cas en fait. Concrètement, par exemple, ça peut être le stress, la colère et tout. Et en fait, il se demande en fait s'il pourrait en fait travailler en fait là-dedans en fait. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller ?
Alors, tout à fait, il faut qu'il Ça, c'est pareil. Il faut qu'il ait vraiment quelqu'un qui l'accompagne dans son projet. Et déjà, je reprends les stages d'immersion. C'est de voir quelle structure fait ce genre d'accompagnement. Parce que c'est sûr, quand on voit les levées de freins psychologiques, on pense tout de suite à devenir psychologue. Mais ça, c'est la grande porte. Et moi, je dis, il y a toujours d'autres accès pour être dans cet accompagnement-là. Et donc, faire des ateliers pour de remise en confiance, etc. Et donc, ça, on peut devenir animateur. On peut aller vers les métiers comme CIP, où, par exemple, moi, je connais une personne qui a été formée en même temps que moi et qui, aujourd'hui, anime des ateliers. Elle ne fait que de l'animation d'ateliers pour de la remise en confiance des personnes. Et effectivement, le frein psychologique, c'est quelque chose qu'on rencontre énormément. Par exemple, moi, j'ai été formée au premier secours en santé mentale, c'est-à-dire tout ce qui est crise d'anxiété, crise d'angoisse, agoraphobie, etc. Et on sait que ça touche particulièrement les femmes et les gens en précarité. Pourquoi ? Parce que quand on ne sait pas comment on va finir le mois, comment on va manger, eh ben, on a beaucoup plus de stress qu'on accumule en soi plutôt qu'une personne où tout va bien et on sait qu'on va finir le mois. Donc c'est vraiment un frein très grand chez les personnes qui sont en précarité et donc qu'on doit travailler. Et effectivement, ça se fait à travers d'ateliers ou d'un suivi psychologique ou mettre en place des groupes de parole. Mais je conseillerais à cette personne de voir son conseiller en insertion professionnelle et de voir tous les métiers qui accompagnent, que ce soit en collectif ou en individuel, et qui pourrait pratiquer avec le minimum de formation ou s'il est prêt à faire des études longues. Mais ça, c'est à voir avec la personne, ses capacités et ses envies.
Ben merci.
Je vous en prie. Il n'y a pas d'autres questions ?
Pour le moment, non.
Expliquer sur la chambre du... Bah, du coup, tu es la chambre...
Oui, la chambre de métier de l'artisanat, la CMA. Bah souvent, on a une méconnaissance en fait de cette structure parce que on pense que c'est vraiment vrai que pour les artisans. Mais on est vraiment ouvert et on est avant tout un centre de formation et on l'oublie. Donc nous, à la CMA, on est aussi un CFA, ce qu'on appelle un centre de formation pour apprentis. 80% d'apprentis chez nous et 20% de formation adulte. Donc voilà, pour des gens qui ont envie, en tant qu'adultes, de se reconvertir, on est aussi ouvert. Et donc on fait plusieurs métiers, je vous en fais une petite liste non exhaustive, mais on aura fleuristerie, on aura photographe, on n'y pense pas, mais voilà. Prothésiste dentaire, on a une des meilleures formations sur la région. C'est un métier hyper méconnu, mais il y a du travail après. Boucher, boulanger, charcutier traiteur, pâtissier, coiffeur, esthétique. C'est vraiment des métiers que nous, sur la métropole, on propose. Et j'adore, moi, l'artisanat. Pourquoi j'ai été là-bas ? Parce que je trouve que c'est beau de pouvoir fabriquer quelque chose. Au début, on part de rien. Et à la fin, on a une réalisation, on voit ce qu'on a fait. Et surtout qu'on peut aller genre sur les meilleurs ouvriers de France, des choses comme ça, où vraiment, après, on a un niveau. Et puis, c'est un savoir-faire français pour la plupart des métiers qu'on propose. Et c'est bête, mais beaucoup de nos apprentis ont l'idée d'aller à l'international. Parce qu'ouvrir une pâtisserie à l'international française... Ça fonctionne en fait. Ouvrir une boulangerie à l'international, ça fonctionne. Et donc en plus, l'artisanat permet d'être autant employé de grandes structures industrielles ou pour les hypermarchés, etc. Mais on peut travailler pour un petit artisan, on peut ouvrir sa boîte et puis on peut faire soit du domicile, soit avoir son local. Mais il y a vraiment plein de possibilités. Et à la fin, on peut, comme m'a dit un formateur, on peut passer sa vie à la CMA, c'est-à-dire être formé, devenir employé, ouvrir son entreprise et puis devenir à nouveau formateur à la CMA pour transmettre. Et c'est des jolis parcours qu'on rencontre et souvent des gens fiers de ce qu'ils font.
Est-ce que vous pourriez donner quand même l'adresse du centre de format du CMA ?
Alors, on a 3 centres. Donc on a le siège, alors c'est assez incroyable, je le dis quand même, on a le siège régional, hein, donc sur la région des Hauts-de-France, donc il y a la Picardie, la Somme, les Pas-de-Calais. Nous, on est le siège à Lille. Donc c'est 17 places des artisans. C'est derrière Porte d'Arras, le métro. Normalement, vous connaissez si vous écoutez là, ce podcast. Donc on est tout près, on est à côté du commissariat. Non, c'est pas le commissariat, non, je me trompe, ça c'est à...
Il est un peu plus loin, le commissariat.
C'est le millénium.
Oh, on est quand même assez loin, le millénium.
Non, donc c'est les deux ronds-points différents.
C'est juste avant le pont qui mène à Porte d'Arras.
Ouais, c'est ça. On passe
juste
le périph.
Avant
là. Donc il y a celui-là et après on a 2 centres de formation à Tourcoing. Le Virolois qui est 17 rue des Pias et le CFMA, mais je me souviens plus de l'adresse.
Eh bien, je vous remercie Natacha d'être venue, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau podcast sur la web radio du Chemin Rouge. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.